La revue de presse internationale, bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Avec tout d'abord sur le continent africain, cette flambée de violence dans les rues de Lagos, la capitale nigériane, hier soir.
Oui, il y a des morts, peut-être des dizaines de morts. Ils sont probablement nombreux, en tout cas, souligne ce matin le journal Premium Times de Lagos, et résulte du tir de soldats sur la foule des manifestants dans le quartier de Lekki. Des milliers de manifestants exigeant une réforme de l'organisation des forces de police s'étaient rassemblés sur l'avenue de Lekki mardi soir, défiant le couvre-feu annoncé un peu plus tôt par le gouverneur, raconte le journal. Un couvre-feu qui devait être effectif à partir de 16h. Les manifestations dénonçant les brutalités policières et réclamant des réformes sont quotidiennes au Nigeria, particulièrement dans la capitale, depuis 2 semaines. La dissolution de l'unité de police la plus controversée, le SARS, le 10 octobre dernier, n'a pas calmé l'ardeur des manifestants. On a pu voir des soldats dresser des barricades tout autour du lieu de la manifestation de Lekki quelques instants à peine avant d'ouvrir le feu, raconte pour sa part le correspondant nigérian de la BBC, Nayeni Jones. Ils ont délibérément tiré sur la foule, systématiquement, racontent par ailleurs 4 témoins directs des événements cités par l'agence Reuters. Le couvre-feu avait été ordonné suite à plusieurs séries de violences à Lagos dans la journée de mardi. Des voyous qui n'ont rien à voir avec les manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre et au moins un poste de police a été incendié plus tôt dans la journée, rapporte le Daily Post. Le Vanguard, pour sa part, parle lui de 3 postes de police attaqués par des voyous déguisés en manifestants. Les manifestations dénonçant les violences policières et leur répression ont déjà fait une 20aine de victimes au cours des 2 dernières semaines. Le bilan pourrait très nettement s'alourdir avec la fusillade d'hier soir.
Et oui, et sur le continent américain, c'est la plainte contre Google qui fait les gros titres de la presse, Eric.
Oui, des poursuites contre le géant de l'Internet pour abus de position dominante et autres violations des lois antitrust, poursuites lancées par le parquet général américain. C'est le défi le plus important lancé par le gouvernement à la puissance des sociétés de technologie, souligne ce matin le New York Times. Et ça pourrait bien changer la façon dont le consommateur utilise l'Internet. Une société, rappelle le journal, peut être considérée comme violant les lois antitrust à partir du moment où elle met en œuvre des accords commerciaux avec clauses contractuelles restrictives pour renforcer sa position dominante. Or, c'est très exactement ce que fait Google quand la compagnie passe des accords avec Apple ou d'autres fabricants de téléphones portables pour faire de son logiciel phare l'outil de recherche par défaut. Google, évidemment, réfute l'accusation. Son juriste en chef, Ken Walker, assure dans une note de blog que ses contrats d'exclusivité avec Apple et d'autres n'excluent en fait personne et que le consommateur est toujours libre de choisir son moteur de recherche. Le problème avec cet argument, rétorque le magazine Wired, spécialisé dans les nouvelles technologies, c'est que Google paie et paie des millions à Apple pour que son moteur de recherche soit justement celui par défaut utilisé sur tous les produits Apple. Si le moteur de recherche par défaut n'a pas d'importance et que Google est simplement le choix du consommateur, alors pourquoi dépenser autant d'argent pour s'assurer qu'il est bien le moteur de recherche par défaut, demande le magazine. Bref, le parquet semble tenir là un argument de poids, mais savoir s'il sera jugé convaincant prendra sans doute quelques années, surtout avec une société de la taille de Google qui a les moyens de mobiliser une véritable armée d'avocats. Même si elle ne pourra sans doute pas compter sur une alternance politique en novembre pour renverser la vapeur. Politico prévient, il y a un soutien quasi unanime de tout le spectre politique américain pour ces poursuites. Depuis les démocrates les plus progressifs jusqu'aux républicains les plus populistes et même les libertariens, tous soutiennent l'action du ministère de la Justice contre Google, la première véritable affaire s'attaquant à un monopole depuis des décennies aux États-Unis.
Et puis enfin, Eric, autre territoire qui fait parler de lui dans la presse internationale ce matin, c'est l'astéroïde Bennu.
Oui, un astéroïde qui se promène à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre et que la sonde américaine Osiris-Rex a réussi à aller gentiment brosser ces dernières heures. Gentiment brosser, c'est en effet en ces termes que le Wall Street Journal rapporte le déroulé de la mission ce matin. La sonde de la NASA orbitait depuis 2 ans autour de l'astéroïde, histoire de trouver un endroit où elle pourrait se risquer à aller collecter un peu de sa surface. Les scientifiques avaient choisi Bennu parce qu'il pense qu'il peut contenir quelques indices permettant de comprendre comment s'est constitué le système solaire, explique The Daily Beast. L'astéroïde, en effet, semble composé des matières originelles qui ont servi à la constitution des planètes, notamment des planètes rocheuses comme la Terre. Trop petit, 510 mètres de long et quasiment sans gravité, Bennu n'autorisait pas vraiment le moindre atterrissage. La sonde s'est donc rapprochée jusqu'à toucher sa surface, la racler pendant quelques secondes pour prélever au moins 60 grammes de matière, explique l'agence Associated Press. Le bras de la sonde a bien touché la surface de de Bennu, à l'heure dite, rapporte encore l'agence. Mais il faudra encore une bonne semaine avant que l'on sache la quantité de matière récupérée et si même on a récupéré quoi que ce soit sur la surface de l'astéroïde. Quant à l'analyse de ces éléments, ce ne sera pas avant le retour d'Osiris-Rex, au plus tôt en 2023.
Merci beaucoup Éric Biegala pour cette revue de presse internationale. 7h41.